Nous avons aujourd'hui un épisode très important de l'Évangile selon saint Matthieu. Voilà que les païens reconnaissent comme sauveur Jésus. Il y a quelque chose d'important à repérer, c'est que le salut est voulu par Dieu pour toutes les nations, mais que ce salut par toutes les nations, pour toutes les nations, passe par la reconnaissance de Jésus comme le Messie d'Israël. La révélation, c'est que le Messie d'Israël est aussi le Messie des païens. Un seul Dieu. Beaucoup de gens croient qu'il y a un seul Dieu, mais son visage est celui qui est révélé à Israël. Et la recherche des mages, la recherche de leur science, la recherche de leur sagesse, n'aboutit pas sans l'information qu'ils glanent à Jérusalem. Et au passage, on voit qu'au contraire, à Jérusalem, on peut avoir toutes les informations et ne rien en faire. Voilà qu'ils sont tout bouleversés, tout surpris, comment le Messie attendu est né. L'intuition d'un Dieu unique est vraie, mais ne suffit pas à définir son visage. Et donc voilà, tout d'un coup, je voudrais vraiment relever ces deux choses, parce qu'on est parfois dans une période d'indifférentisme, on se dit, du moment que les gens croient en Dieu, c'est bien, voilà, et puis on ne va pas chercher plus loin. Alors assurément, c'est déjà une bonne intuition que de dire il n'y a un seul Dieu, mais le visage de Dieu, l'intimité avec le visage de Dieu, nous le trouvons dans la révélation qui est venue à Israël, et le visage de Dieu qui nous est révélé, c'est le Christ. C'est en lui que nous avons la pleine révélation de la divinité. Et c'est cette pleine révélation que nous sommes appelés à partager à tous les peuples. Parce qu'il y a toute une différence entre connaître ce visage intime de Dieu ou bien simplement connaître une silhouette. Parfois ça nous arrive, on pense reconnaître quelqu'un, on en voit une silhouette qui lui ressemble et puis on arrive devant la personne, mais c'est pas du tout son visage, c'est pas du tout la personne que je cherchais. Eh bien, nous sommes appelés justement à ne pas laisser ceux qui cherchent Dieu sans avoir reconnu le visage du Christ, ne pas les laisser dans cette possibilité de ne pas reconnaître le vrai visage, de pouvoir du coup se tromper sur le visage intime de Dieu. Ils sont faits pour le reconnaître. Dieu veut qu'ils le reconnaissent. Dieu veut qu'ils reconnaissent que le salut qui est fait pour eux passe par Jésus, le Messie d'Israël. Alors quand on entend ça, nous on peut se dire, j'entends que j'ai une responsabilité pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore reconnu le Christ comme Dieu. Mais finalement, qu'est-ce que l'épisode des mages peut venir changer dans ma propre vie au-delà de ce souci de l'annonce? Bien au-delà de ce souci de l'annonce, comme je le disais au début de la messe, nous faisons l'expérience qu'en nous, il y a des parties qui se sont converties, il y a des parties qui ont laissé la lumière de Jésus entrer et façonner dans notre vie, et puis il y a des parties où pas vraiment. Il y a des parties où je dis non, la Seigneur, tu restes dehors, ça c'est ma partie privée, c'est ma partie qui ne veut pas te connaître. Eh bien, la solennité de l'épiphanie est ce moment privilégié pour que ceux qui demeurent païens en nous découvrent le Christ, accueillent le Christ, se laissent illuminer par le Christ. Et donc, nous pouvons pour cela nous mettre à l'école des mages. Et que font les mages lorsqu'ils voient Jésus? Ils se prosternent. C'est-à-dire qu'ils vont faire devant lui un acte d'adoration. Et cet acte d'adoration est accompagné par une triple offrande. Ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Eh bien, je voudrais réfléchir un instant avec vous à cette adoration et cette adoration qui est une offrande, offrande de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qu'est-ce que cela vient nous dire pour pouvoir convertir en nous ce qui n'est pas encore dans la lumière de Dieu? La première chose, je voudrais rappeler que l'adoration, le terme même d'adoration, signifie contre la bouche, tout contre la bouche. Il y a une sorte de baiser dans l'adoration. Il y a un baiser de l'humanité à Dieu qui se fait proche. Donc il y a une relation qui est tout intime. Il y a une relation qui est tout intime et aussi tout délicate. Alors vous me direz, on peut voler un baiser. Ben justement, dans ce cas-là, ce n'en est plus vraiment un. Parce que au lieu que ce soit une rencontre, j'ai vu l'autre simplement comme un instrument dont je me suis servi. Voilà, je voulais que mes lèvres rencontrent la sensation d'autres lèvres et je me suis emparé de ces lèvres qui étaient à ma portée. Ce n'est pas un baiser. Dans le baiser, il y a une délicatesse, il y a une mise en vulnérabilité, je dirais même, qui nous permet justement de se rencontrer dans la délicatesse. Eh bien, cette adoration, si nous nous souvenons de cette délicatesse, peut nous aider à entrer en prière. Parce que parfois, nous entrons violemment en prière. Nous entrons avec toute notre vie, ses bousculades, ses soucis, ses bruits, et nous imaginons, voilà, hop, que tout d'un coup, on va rentrer dans la prière. Mais imaginons-nous rentrer dans une pièce où on est comme, j'allais dire, un ouragan, avec tout notre barda qu'on laisse, il y a un bruit, on n'est pas encore apte, j'allais dire, à une discussion, à une écoute et à un échange. Et cette image de l'adoration, cette image du baiser, je ne vais pas, si je suis avec mon barda, je ne peux même pas embrasser l'autre, je n'arrive pas jusqu'à sa bouche, j'ai trop de matériel devant moi. Que j'apprenne à déposer cela. Seigneur, je viens te voir dans cette délicatesse. Et donc, mon premier acte, c'est de dire, eh bien, je viens déposer mes soucis, je viens déposer ce qui me préoccupe, je viens déposer ce qui m'agite pour être, Seigneur, dans la délicatesse de la rencontre. Une première chose qui nous aidera à entrer dans cette adoration qui va libérer notre cœur, pensez à ne pas entrer avec violence n'importe comment, pensez à déposer ce qui nous agite. Alors vous allez dire, mais je le dépose où ? Ben vous le déposez dans les mains de votre saint patron, vous le déposez dans les mains de votre ange gardien. Ils vous ont été donnés, c'est pas pour rien, hein, mettez-les un peu au travail de temps en temps, vous avez un bon motif, je viens rencontrer le Seigneur, j'ai besoin de toi pour avoir l'esprit libre, l'esprit ouvert pour rencontrer le Seigneur. Donc première étape à l'école des mages, pour rentrer dans ce baiser délicat, apprendre à déposer ce qui nous agite. Et puis l'on voit que les mages offrent de l'or. L'or, c'était le présent pour le roi, celui qui doit régir le monde, celui qui doit y mettre de l'ordre, qui doit organiser l'activité de la cité, qui doit rendre la justice. Eh bien, je peux commencer, je viens, Seigneur, avec mon action sur le monde. Je viens la mettre, je viens la déposer à tes pieds. Je viens déposer à tes pieds peut-être comment ma gestion des biens résiste à ta présence. Parce que les biens, parfois, je mets une main dessus et je dis ce n'est à moi, que pour moi. Où j'ai tellement peur de manquer que je me ferme. Je veux tout amasser. C'est une façon aussi de regarder mon travail comme le lieu peut-être de l'absolu pour moi, où le regard des autres sur la qualité de mon travail est devenu mon idole. Seigneur, je viens le déposer devant toi, parce que tous ces biens dont je dispose, ce travail même que je suis capable d'accomplir, c'est à toi que je le dois. Alors vous allez dire, mais j'ai une compétence, je l'ai travaillé, j'ai transpiré pour le faire, c'est vrai. Mais si vous n'aviez pas pu recevoir telle éducation, si nous n'avions pas eu telle ou telle personne qui nous ont aidés dans notre développement, dans nos études, nous ne pourrions pas faire cela, ne serait-ce que d'avoir la santé pour le faire. Ce fut un don de Dieu que je viens reconnaître. Je viens reconnaître, Seigneur, que ce que je possède, c'est d'abord à toi que je le dois. Je l'ai peut-être effectivement travaillé, mais c'est d'abord à toi que je le dois. Et je viens, Seigneur, déposer, reconnaître ce don que j'ai reçu. De faire cela va libérer notre cœur de cet ancrage parfois dans le monde où nous voyons que cet ancrage dans le monde, dans le travail, dans la reconnaissance, peut être quelque chose qui nous obsède au point parfois d'en perdre le sommeil. Or le sommeil nous est donné comme un temps justement de repos. Quand nous sommes envahis jusque dans notre temps de repos, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui justement est encore païen, qui ne sait pas mettre la limite. Parce que celui qui est uni à Dieu, celui qui suit le Seigneur, sait que le temps du repos lui a été donné justement pour se reposer. Et le temps du travail pour travailler. Quand la différence ne peut plus être vécue, ça veut dire que j'ai besoin du Seigneur là pour remettre cette limite, remettre cet ordre entre les deux. Offrir ma relation au monde, la déposer devant le Seigneur comme les mages ont déposé l'or devant le Seigneur Jésus. Et puis, deuxième chose, les mages déposent de l'encens. L'encens, c'est l'offrande que l'on fait pour Dieu. Et donc, quand je viens adorer, je viens aussi ressaisir ma relation à Dieu. Comment est-ce que je vois Dieu? Quelle est ma relation à Dieu? Est-ce que Dieu est pour moi une sorte d'instrument, une petite baguette magique? J'ai très envie de quelque chose. Alors Seigneur, je viens te prier pour que tu me donnes ce dont j'ai très envie. Mais là, je transforme le Seigneur comme une espèce de distributeur automatique. Le distributeur automatique, vous mettez votre pièce de 2 euros et vous espérez avoir votre Coca-Cola. Si vous n'avez pas votre Coca-Cola, vous dites, j'ai été volé de quelque chose, j'ai pourtant mis ma pièce. Et parfois, face à Dieu, je suis un peu dans cette même logique. Je mets ma prière et j'attends mon résultat. Je ne me pose pas la question de savoir si ma prière était juste, si ma prière correspondait au cœur de Dieu, si elle voulait faire le bien autour. Je suis dans une espèce de rapport commercial avec Dieu. L'encens me rappelle que je viens devant Dieu, mon Père, que je viens devant Dieu, notre Père, et un bon Père. Est-ce que je suis dans cette attitude de familiarité? Cette attitude de familiarité et de respect, on n'est pas désinvolte devant Dieu. Et en même temps, il y a une grande confiance parce qu'on sait qu'on est devant celui qui nous aime. Vous savez, parfois notre prière, et même j'allais dire régulièrement, elle est aride. Je suis devant Dieu et je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Alors parfois, c'est moi qui ne suis pas au bout du fil, quoi, c'est le problème, mais... Et je me demande, et je ne sais même plus que Dieu veut me partager cette tendresse. Eh bien, à l'école des mages, je peux revenir devant Dieu en disant, le Seigneur Jésus nous a fait connaître ton visage de bon Père. Le Seigneur Jésus nous a fait connaître ta tendresse de bon Père. Seigneur, en cette adoration, donne-moi de la goûter. Comme un petit enfant ne peut pas grandir sans l'amour de ses parents, je ne peux pas grandir sans la connaissance de ton amour, Seigneur. Et je viens te le redire, et je viens te donner la liberté d'agir dans mon cœur, jusqu'au tréfonds de mon cœur, pour que cette tendresse puisse s'imprégner profondément en moi, pas superficiellement. Vous savez que parfois, on veut teindre un vêtement, mais on l'a laissé que quelques secondes dans la teinture, et au premier lavage, tout part. C'est pas la teinture qui était mauvaise. C'est le vêtement qui a besoin de temps pour s'imprégner. Et mon cœur aussi a besoin de temps pour s'imprégner de cette tendresse de Dieu. Les mages offrent l'encens, comme je suis appelé à demander cette tendresse de Dieu et à prendre le temps pour qu'elle puisse imprégner profondément mon cœur, mon esprit, mon intelligence, ma mémoire, jusqu'à mon corps. Enfin, j'espère que vous êtes toujours vivants. De toute façon, j'ai pas beaucoup de voix, donc je vais bientôt m'arrêter parce que j'arriverai plus à parler. Donc vous avez cette assurance. Les mages offrent la myrrhe. La myrrhe, c'est peut-être parfois ce qui nous est le plus difficile à comprendre, parce que la myrrhe, c'était un parfum précieux, là qui évoque l'ensevelissement de Jésus. Voilà, on oignait ceux qui allaient aller au tombeau. Et c'était un signe d'espérance, de vie, parce que dans le tombeau, normalement, les choses pourrissent. Donc il y a une mauvaise odeur, l'odeur de pourriture. Et cette onction était une espérance de vie éternelle. Et donc les mages manifestent, évoquent déjà l'ensevelissement de Jésus. Mais qu'est-ce que c'est l'ensevelissement de Jésus? c'est le signe de l'amour vécu jusqu'au bout. Jésus mis au tombeau, c'est l'amour vécu dans notre humanité jusqu'au bout. Or, nous faisons cette expérience, c'est difficile d'aimer. C'est difficile d'aimer, même ceux qui me sont le plus proches, même mon frère, même ma sœur, qui sont peut-être les plus précieux pour moi, même mon conjoint, qui sont peut-être les plus précieux pour moi. Il y a des moments où je dis, mais vraiment, t'es à claque. Je trouve que tu dévores mon oxygène. Et pourtant, s'il t'arrivait quelque chose, j'en serais profondément bouleversé. Et donc, en venant adorer le Seigneur, en pensant à cette myrrhe que les mages ont offert, je demande au Seigneur Jésus de me révéler la puissance de son amour, de me révéler son Esprit Saint. Seigneur, je veux aimer comme toi, parce que tu nous dis que c'est possible. Si je l'entendais simplement de moi-même, je n'y croirais pas. Mais tu nous as dit que c'était possible. Tu nous as dit que tu nous donnais ton esprit. Alors je crois. Je crois que tu nous partages ton esprit qui nous permet d'aimer. Je crois que tu nous partages ton esprit qui nous permettra d'aimer quand c'est difficile, d'aimer quand nous sommes bousculés, d'aimer quand nous sommes à bout de patience, d'aimer comme tu as aimé, au-delà de la souffrance, au-delà du temps, au-delà de l'impatience. Apprendre à aimer à l'école des mages, c'est apprendre à nous laisser transformer. Mais c'est quelque chose qui se fait devant la présence de Jésus. Et donc nous avons cette grande chance ici à la paroisse, du lundi soir jusqu'au vendredi soir, de pouvoir venir adorer le Seigneur Jésus à l'oratoire Saint-Joseph, de pouvoir nous inscrire, si nous prenons des créneaux de nuit, de 8h, de 20h le soir jusqu'à 8h le matin, ou bien dans la journée de passer devant le Seigneur Jésus pour adorer comme les mages ont adoré. Remarquez bien que la joie des mages est venue lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, lorsqu'ils se sont rapprochés de lui. Eh bien nous aussi, si nous faisons cet effort de nous rapprocher de lui, nous connaîtrons cette joie de sa présence qui vient ouvrir notre cœur à un rapport juste au monde, à un rapport intime avec le Père, à une capacité d'aimer comme lui aime. Que cette fête de l'Épiphanie, Dieu notre Père, nous te supplions, soit pour nous l'occasion d'être remplis de ton esprit d'adoration. Qu'en venant adorer le Christ, en particulier dans son corps eucharistique, ce qui reste de païen en nous se convertisse et se transforme. Nous voulons, Seigneur, comme les mages, repartir chez nous, dans notre vie, par un autre chemin, un chemin de lumière, le chemin de ta lumière. Amen.